Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti,
avec à la réalisation Nancy Zautier. Son, rythme, harmonie, nuance, hauteur de notes, équations mathématiques, poésie, vibration. La musique est une expression artistique, la communication des âmes selon Marcel Proust, mais il semble difficile de la cerner exactement en fonction de ses multiples formes et origines et des émotions qu'elle éveille. Individuelle, collective, rituelle, elle est une forme d'expression des sentiments et des émotions, un partage de plaisir, un symbole d'appartenance à une culture. La musique existe depuis des millénaires, dans toutes les civilisations, dans toutes les régions du globe. Sans doute le chant, à travers la voix humaine, a été la première musique avant d'être codifiée, harmonisée, assortie d'instruments. Le plus ancien instrument retrouvé, une flûte en os, a plus de 35 000 ans. Les représentations d'instruments ont été tracées sur des peintures rupestres il y a plus de 13 000 ans. C'est une caractéristique universelle de l'humanité et, à la fois, une dimension intime de chacun d'entre nous. Qui ne se souvient d'un air, d'une chanson, attachée à un moment notable de sa vie, heureux ou non? Elle est chargée de beaucoup de vertus, consolatrice, donnant du courage et de l'espoir, source de plaisir, sensation de liberté, acte social de communication, mode d'accès aux mondes intérieurs et à la spiritualité. La liste est longue à travers les citations des artistes et nos propres ressentis. La musique, indissociable de l'histoire des humains, est liée aux grands bouleversements sociaux et historiques, et donc aux droits humains, acquis ou bafoués ou défendus. On la retrouve utilisée en moyen de torture, en chant guerrier et hymne patriotique. Elle peut donc être un outil de pouvoir, utilisé par tous les régimes, y compris les totalitaires. Mais grâce à l'engagement de musiciens, d'artistes ou de simples citoyens, elle est aussi un lien qui réunit vers un but de liberté, de solidarité, de partage des idéaux. Elle porte une forme de résistance et d'espoir qui soutient les combats pour la liberté. Nous allons évoquer avec notre invité Bernard Forlot ce lien entre droits humains et musique, de manière générale, puis à travers un épisode du XXe siècle, la guerre de 14-18. Mais auparavant, nous prenons le temps d'écouter l'aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprétée par la pianiste chinoise Yu Xiaomei, victime de la révolution culturelle.
Bonsoir Bernard Forlot.
Bonsoir.
Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous?
Oh, ça sera rapide. J'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence au Maroc au moment de l'accès de ce pays à l'indépendance. Ce qui m'a, je pense, permis d'avoir quelques ouvertures un peu différentes au niveau de la vision du monde. Puis, rentré en France, j'ai fait des études de scientifiques. Mais très rapidement, je me suis lancé dans le militantisme syndical d'abord, et associatif dans le domaine de la défense des droits humains. Cela a été passionnant, mais heureusement que j'avais des amis musicaux à cette époque, dans les années 70. J'avais mes amis les Beatles, les Pink Floyd, j'avais Léo Ferré, j'avais Nina Simone. Et assez rapidement, ben, j'ai d'autres amis qui sont venus, un peu plus âgés, Jean-Sébastien Bach, Chopin, Beethoven, Mahler. Et voilà, donc c'était parti pour une grande partie de ma vie.
D'accord. Et du coup, à partir de ces différents amis, vous avez rédigé, il n'y a pas longtemps, un essai « Musique et droits humains du 18e au 20e siècle ». C'est une juxtaposition assez inattendue et pourtant il y a tellement de choses à dire, on va le voir ensemble. Pourquoi finalement ce choix thématique? Quelles sont vos motivations?
Alors bon, elles sont multiples bien sûr. Quand on est musicien amateur, historien amateur, j'avais envie de creuser un peu l'ensemble de cette thématique. Avec mon parcours de militant et droits humains, ça ne pouvait que me pousser à faire ça. Mais quand j'ai réfléchi un peu, il y a quand même eu un déclic, une grande question qui m'a taraudé pendant longtemps et qui a été sûrement à l'origine de ce livre, c'est d'ailleurs le premier chapitre, c'est la question, peut-on vouloir la beauté musicale au prix de la castration d'enfants? Et là, rien que dans cette phrase, on associe beauté, art, musique, liberté, plaisir, avec mutilation d'enfants, attaque à la dignité de la personne humaine. Donc, c'est bien sûr le phénomène des castrats, qui a bien sûr eu son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle.
D'accord, vous pouvez développer un peu plus justement sur cette question des castrats, qui a été le point de départ pour vous?
Bien sûr. Donc nous sommes au XVIIe, XVIIIe siècle. Depuis quelques années, voire quelques siècles, l'Église chrétienne avait interdit aux femmes d'être sur scène dans les églises. Certains disent que c'est la faute à Saint-Paul, mais bon, je ne vais pas poursuivre. Mais il y a eu, à partir de cette interdiction, il y a eu aussi une volonté de donner du plaisir avec une voix extraordinaire à toute l'aristocratie en Europe, et aux prélats, et aux évêques, et aux papes aussi à Rome. Et donc, ces castrats, c'était des stars à l'époque. C'est la même dimension que les vedettes du show business actuellement. Ouais. Les femmes se pâmaient, on voulait arracher leurs vêtements, bref. Mais ça, c'était le beau côté du décor. À l'arrière du décor, il y avait quand même des milliers d'enfants, de 7 à 12 ans, on va dire, officiellement, qui ont été mutilés pour le plaisir de cette aristocratie et au détriment en plus de, avec une mortalité énorme, parce que ceux qui ont réussi étaient une petite minorité, et aussi parce que ces enfants vivaient dans des zones géographiques en Italie du Sud, région très pauvre. Et beaucoup de parents acceptaient de dire oui à des personnes qui passaient dans les campagnes pour réquisitionner. Et ces parents rêvaient que leur enfant devienne une vedette. Tout rapprochement avec la période actuelle est bien sûr fortuite.
Bien
mais
sûr.
Véritablement, cette association du plaisir des uns et de la castration d'enfants et de la mortalité d'enfants à cette époque-là, moi, m'a vraiment touché.
Effectivement, les conditions d'asepsie à l'époque étaient assez précaires, on peut dire.
Ben, d'asepsie, même la manière dont... très souvent, ça se faisait sans rien, quoi. On plongeait l'enfant dans un bain de lait pour arrêter, pour freiner un peu
la circulation sanguine, oui.
Voilà. Mais c'est tout, quoi. Et quand même, il y a eu des endroits dans certaines villes où il y avait 80% de mortalité.
D'accord. C'est un phénomène qui a été restreint à l'Europe, hein, à l'Italie, il y en a eu ailleurs?
Alors, la très 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 grande majorité des castrations se sont faites en Italie. À Bologne, à Venise, pas à Rome bien sûr, parce que l'hypocrisie de l'Église était telle qu'il ne voulait pas, c'était interdit de castrer les enfants. Mais par contre, il faisait venir des castrats dans les églises et au Vatican. Voilà, donc ça s'est arrêté au milieu du 19e siècle. Juste pour l'anecdote, même Napoléon Ier était tombé en pamoison devant un des derniers castrats. Ce qui montre quand même qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
D'accord. Et c'est vrai que quand vous évoquez les castrats, on pense en particulier à ce film Farinelli, qui a été un des plus grands castrats de son époque. On pourrait développer énormément comme ça. Ceci étant, je pense que c'est qu'une partie du livre. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous avez procédé pour écrire ce bouquin. Quelles sont, je dirais, les sources que vous avez utilisées? Quelle méthodologie en particulier?
Bon, la première des choses, c'est que, en tant que retraité, j'avais un peu de temps. Et j'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de bibliographies, j'ai lu beaucoup d'articles, pas mal de vidéos quand c'était possible. Les références biblio dans le bouquin sont assez conséquentes. Mais c'était pas suffisant, bien sûr. Il fallait en faire une synthèse, ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi. Et heureusement, j'avais quelques amis qui, dans certains domaines, pour certains chapitres, m'ont beaucoup aidé. Donc tout ça a fait que, la passion aidant, je suis arrivé au bout de mon rêve qui était un peu fou au départ.
Vous avez trouvé des ouvrages qui traitaient de ce même sujet, musique et droits de l'homme, qui ont été rédigés au cours des siècles précédents, ou c'est vraiment une innovation de votre part?
Non, j'ai lu des livres qui portait spécifiquement sur cette association. Bien sûr, sur la musique, sur le nazisme, et plus particulièrement dans les camps de concentration, on aura l'occasion d'y revenir peut-être. Toute la musique, je dirais, noire américaine, lors de la lutte pour les droits civiques, ça c'était aussi important. Il y a eu aussi des époques, comme sur la Commune de Paris, où il y a eu des ouvrages et beaucoup d'articles spécifiques qui m'ont beaucoup aidé. Ben sinon, après, il fallait à partir de différents ouvrages trouver des liens pour permettre d'avancer.
Oui. Et alors, justement, là, les exemples que vous donnez sont presque soit contemporains, soit récents. Depuis quand est-ce que la musique et l'expression musicale plus largement ont été utilisés comme moyen politique pour contrôler, unir ou au contraire galvaniser les citoyens, comme ça a été le cas pour les écrits, les discours, etc. Est-ce que ça s'est développé principalement à partir du XVIIIe siècle, au moment où les droits de l'homme ont émergé, ou est-ce que ça a débuté avant?
Oh, ça a débuté dès que les êtres humains se sont regroupés en communauté, et si on recherche dans les plus anciennes civilisations, genre polythéiste par exemple, le dieu de la musique avait aussi la charge d'harmoniser le monde. Donc déjà il y avait quelque chose, un lien entre politique et musique. J'ai lu un exemple, moi qui m'a aussi un peu troublé, c'est que dans l'Antiquité romaine, quand les chrétiens étaient pourchassés, une des formes de torture, je ne sais pas si elle a été très fréquente, c'était de mettre autour des martyrs chrétiens des centaines de flûtistes, en sachant très bien qu'à l'époque, les flûtes n'étaient pas synchronisées, harmonisées, accordées. Et donc, quand tout le monde soufflait dans les flûtes, il y avait une telle dissonance que ça poussait les martyrs ça les faisait souffrir.
Mais ça faisait aussi donc, souffrir ceux qui jouaient de la flûte, non?
Comment?
Ça faisait également souffrir ceux qui jouaient de la flûte?
Oui, mais bon, je pense qu'ils étaient sous les ordres de quelques dignitaires romains, donc eux, ils devaient le faire. Mais surtout, ça m'a... On aura l'occasion sûrement d'en reparler, mais cette association d'utiliser la torture, d'utiliser la musique, par contre, comme forme de torture, ben on le voit dans notre époque contemporaine. Donc déjà, sous l'Empire romain, c'était déjà utilisé.
D'accord. Et je me souviens de la phrase de Platon hein, qui disait « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler la musique ». Je pense que vous approuvez.
Je ne sais pas, moi j'approuve pas. Mais en tout cas, Louis XIV et Napoléon, eux, ont approuvé. Hein, puisqu'ils en sont... ça a été à leur époque respective, ils ont maîtrisé très largement cette affirmation de Platon.
Alors, effectivement, on peut utiliser la musique de différentes façons, soit comme coercition, torture, soit au contraire pour galvaniser les foules. Vous avez évoqué tout à l'heure le rapport entre musique et nazisme. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus par rapport à ça?
Oui, parce que c'est quand même... après l'époque de la Première Guerre mondiale que l'on va aborder tout à l'heure, musique et nazisme, c'est quand même l'exemple fort, extraordinaire, de ce que peut faire l'être humain quand dans sa bassesse. Quoi. C'est vraiment les tréfonds de l'âme humaine sombre que l'on peut décrire dans cette période. Alors déjà au départ, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, a été mis en place une lutte, une volonté d'effacer toutes les musiques qu'ils appelaient dégénérées, à savoir les musiques de compositeurs, des musiciens juifs, mais aussi francs-maçons, mais aussi communistes. Il ne fallait pas, bien sûr, que les oreilles des Allemands ariens puissent être abîmés par ces musiques qui est donc dégénérées. Donc ça, c'était la première chose. Mais très rapidement, on sait aussi que dès l'arrivée de l'Hitler au pouvoir, il y a eu les débuts de création des premiers camps de concentration. Mm-hmm. Et là, déjà, dès le début, il y a eu des orchestres de quelques membres, tout d'abord, puis des orchestres qui se sont développés. Essentiellement au départ de musiciens professionnels, quand par exemple l'Allemagne envahit la Pologne, et petit à petit se sont développés dans de nombreux camps. Chaque camp qui se créait se devait d'avoir un orchestre. Et jusqu'à l'exemple, je dirais, ultime, à Auschwitz 1, qui était le camp de concentration, et Auschwitz 2, Birkenau, qui était le camp d'extermination, le camp de mise à mort, il y avait des orchestres développés. Et donc là...
Quel était l'objectif de ces orchestres? C'était un moyen de torture? C'était un moyen de ravir les oreilles des officiers? C'était pourquoi?
Ben, c'était les deux, d'ailleurs. Tout d'abord, il fallait occuper l'esprit. Donc, des détenus, des déportés. Donc, il y avait de la musique dans les haut-parleurs. Ça devait rythmer leur vie. Donc quand les commandos de travail partaient justement sur leur chantier, ils sortaient du camp et ils passaient devant un orchestre qui jouait, et quand ils revenaient le soir, épuisés, ils tenaient quelquefois leurs camarades qui étaient morts sous le travail, et ils repassaient devant l'orchestre, et en plus c'était des musiques rythmées, donc on les obligeait, ces déportés, à marcher au pas, après une journée de travail incroyable. Donc là, c'était la torture, véritablement. Puis après, il y avait aussi l'occupation, c'est que beaucoup de responsables de camp devaient occuper une grande partie de leur...
Temps.
De leur temps. Et donc la musique faisait partie de ça. Et bien sûr, il y avait... nous ne sommes pas... sous l'influence allemande pour rien, il y avait des commandants de camp, des responsables qui étaient passionnés de musique. Il y avait quand même le cas extrême où un responsable de camp venait de, comment dire, d'emmener dans les chambres à gaz des Tziganes, et en même temps avait demandé la création d'un orchestre Tzigane, parce qu'il aimait la musique Tzigane. C'est, je veux dire, arriver à ce niveau-là de bassesse et d'incompréhension de la nature humaine, on a du mal à vraiment à comprendre.
Oui, alors depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l'exemple que vous venez de citer, il y a eu d'autres exemples d'utilisation de la musique qui soit illustrent ce constat, soit qui mettent en avant des actes de résistance de façon plus contemporaine. Il y a différentes situations qu'on pourrait pointer du doigt. Par exemple, Guantanamo. On se souvient tous de l'enfermement de ces prisonniers habillés en orange. Et là, je crois que la musique a été utilisée également comme instrument de torture.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'armée américaine a utilisé quand même des méthodes qu'ils avaient recommandées lors des dictatures sud-américaines, dans les prisons chiliennes, argentines. Et donc, ils ont mis au point aussi ce type de torture par la musique. Donc, dans ce camp de Guantanamo, il passait des morceaux, par exemple d'Eminem, de Britney Spears, de Metallica, de Bruce Springsteen, avec Born in the USA par exemple, et il diffusait aux détenus à fond, avec des volumes extraordinaires pendant plusieurs heures, et bien sûr, ils appelaient ça de la torture légère, et donc, en finale, les victimes, les détenus étaient traumatisés sur le plan psychologique et physique, et ça pouvait même aller au suicide. Bon, bien sûr qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient tellement contrôlés, mais ça causait des traumatismes psychologiques importants.
D'accord. Alors là, vous avez l'exemple de la torture. Il y a d'autres exemples, et nous avons évoqué lors d'une dernière émission la situation à Gaza. Et dans votre essai, vous évoquez justement une action de la musique en faveur des droits humains en Palestine et Israël. Une sorte de musique comme ferment de paix qui réunit au lieu de diviser. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ah oui, parce que ça me tient à cœur, cet exemple. On peut imaginer, il y a à peu près 25 ans, puisque c'était le 21 décembre 2005, malheureusement, cet anniversaire est passé dans l'oubli. Nous sommes à Ramallah, hein, qui est la capitale de l'autorité palestinienne. Il y a une salle de concert complètement pleine. Il y a même le Premier ministre palestinien, Nabib Shatta, qui est présent. Et devant le public, il y a un orchestre. Qui est dirigé par un grand chef d'orchestre, pianiste, Daniel Barenboim, qui est israélien, mais qui est aussi argentin. Et ce concert exceptionnel, qui va être appelé le concert de liberté pour la Palestine, unique d'ailleurs, et cet orchestre va jouer des œuvres de Beethoven, de Mozart. Et cet orchestre a été créé en 1999, et particularité vraiment unique et du fait de sa composition, c'est-à-dire il s'appelle West Eastern Divan Orchestra et il est composé de musiciens professionnels, en tout cas de très haut niveau, israéliens, palestiniens, syriens, irakiens, libanais, et cet orchestre multiculturel concernant les musiciens qui a enthousiasmé ce public de Ramallah. Mais malheureusement, ce concert a été unique, interdit, mais heureusement, l'orchestre continue de jouer sous la direction de Daniel Barenboim. Il donne des concerts chaque été dans différents pays européens. Et ça, voilà, c'est l'espoir que la musique peut aussi apporter quelques moments de paix.
C'est un bel exemple de l'utilisation de la musique, effectivement. Alors, je dirais qu'au cours de l'histoire humaine, la musique, les chants ont servi de support à la résistance, hein, contre l'oppression. Il y a des centaines, des milliers, soit de musiciens, musiciennes ou de chants, Est-ce que en une minute, vous auriez quelques exemples, deux, trois exemples de personnes qui, effectivement, pour vous, ont été des porteurs d'espoir grâce à la musique, des porteurs de résistance?
Alors, porteurs de résistance, oui, mais aussi, je voudrais parler d'eux parce qu'ils sont oubliés, ils sont peu connus, et ça fait du bien de parler aussi de musiciens qui ont vécu des moments tragiques et dont on a perdu la trace et qui sont oubliés. Je commencerai par exemple par un jazzman qui s'appelle Eddie Rohner, qui était né à Berlin, d'une famille juive polonaise. C'était un virtuose, c'était vraiment un jazzman professionnel. Et bien sûr, dans les années 30 en Allemagne, être juif et jouer de la musique de nègre, comme il était dit, c'était quand même compliqué, on peut le penser. Et donc il a quitté l'Allemagne, il s'est réfugié en Pologne, mais l'armée allemande envahissant la Pologne, il a poursuivi sa route, et il est arrivé en Biélorussie, où là, heureusement, le premier secrétaire du Parti communiste biélorusse était un amateur de jazz. Donc, Eddie Rohner est arrivé même à être qualifié de musicien officiel de Staline. Mais malheureusement, ce jazzman n'avait vraiment pas de chance dans sa vie. Après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, en Union soviétique, il fallait chasser la musique décadente. Et donc, notre jazzman est parti au goulag pendant 8 ans.
D'accord. Encore juste un exemple, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, une autre personne qui vous a frappé rapidement.
Je parlerai aussi à nouveau de Sam Cooke, qui est, on va changer de continent, on va changer de pays, qui est une star du rhythm and blues aux États-Unis, qui a beaucoup participé à la lutte pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King. Il a subi la discrimination d'une manière très 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 forte, mais c'était un battant. Et il est arrivé, lors d'un concert dans les États du Sud, à obtenir l'autorisation d'avoir une assemblée mixte. Il y avait d'un côté les Blancs et de l'autre côté les Noirs, avec un cordon qui les séparait, mais au moins les deux communautés écoutaient la même musique et partageaient la même joie.
Et ça, c'est très,
ça, c'était extraordinaire. C'est très beau, malheureusement, M. Hoover du FBI a tout de suite noté son nom. Et lorsque ce musicien a rencontré Malcolm X en 1964, il a été assassiné peu de temps après.
D'accord. La musique comme résistance. Eh bien, écoutez, merci pour cette première partie. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale pour illustrer justement ces résistances en musique. Nous allons écouter Bella Ciao dans une version tout à fait particulière que vous nous commenterez tout de suite après.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندا خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا
Nous poursuivons le thème de notre émission Parlant des droits humains, consacré ce soir au rapport entre la musique et les droits humains, avec notre invité Bernard Forlot, autour de l'essai Musique et droits humains du 18e au 20e siècle. Nous venons d'écouter une version de Bella Ciao. Est-ce que vous pouvez illustrer pourquoi vous avez choisi cette version ?
Non, mais je crois que l'actualité s'est imposée. C'est un chant, bien sûr, qui était un chant de la résistance italienne, mais qui est chanté par une jeune Iranienne anonyme lors de la répression et il y a quelques années par rapport à la mort suspecte de Mahsa Amini. Et j'ai trouvé que ce chant était universel, intemporel, et qui méritait d'être connu.
Effectivement, c'est une belle découverte. Donc nous avons évoqué le thème général de la musique et des droits humains dans la première partie, et on a évoqué certains moments forts de l'histoire. Vous avez choisi une illustration qui est la guerre de 14-18 pour un regard plus approfondi sur la place de la musique dans ces moments d'histoire. Mais vous allez nous expliquer pourquoi ce choix.
Ah ben ce choix c'est imposé de plusieurs manières. D'abord parce que mon grand-père a été blessé à Verdun, et comme j'aimais beaucoup mon grand-père, c'est une manière de raviver sa mémoire. En plus, la musique, dans ce conflit, a joué un rôle très très important sous toutes ses formes. Des chants guerriers, des chants de fraternité, des musiques de résistance et qui dénonçaient des faits. Bref, tout y était. Et une troisième... comment dire, manière et cause de ce choix, c'est que c'est pour rendre hommage aussi à tous ces soldats, qui soient français, britanniques, allemands, américains et africains, dans ce conflit qui était vraiment, et beaucoup d'historiens le regardent comme cela, absurde, incompris par les soldats, et très souvent dirigé par des états-majors incompétents.
Et donc quand on évoque musique et guerre de cette époque, on pense marche militaire, c'est-à-dire la musique qui entraîne d'abord les gens au départ, puis les conscrits, puis les militaires au combat. Est-ce que c'est effectivement une manière de galvaniser les soldats pour les envoyer au front, à la mort et aux souffrances ?
Ah oui, en tout cas, tout d'abord, la première musique que les militaires, les poilus, entendaient, c'était dans les gares, quand ils étaient appelés, lors de mobilisation générale avait été donnée, et donc il y avait des fanfares qui les accompagnaient et partaient dans le train. Alors, il faut bien sûr rappeler que les soldats qui partaient la fleur au fusil, ça c'est devenu de moins en moins crédible. La très grande majorité était inquiets, ils partaient en laissant leur ferme et leur champ et leur famille tout seuls. Et donc, c'était pas la joie. Donc, cette musique était là aussi pour leur remonter le moral.
Et des deux côtés, en fait. Autant les armées allemandes que les armées françaises ont utilisé la musique.
Ah, ben, ça, c'était un bon... C'était une bonne recette. Hein. Dans l'armée du Kaiser, en plus, ils étaient organisés différemment, mais l'aspect régional était très, très développé. Et là, c'était les pot-pourris de marche, des opéras, des opérettes. Bref, tout ce que les soldats écoutaient en temps de paix.
Et lorsqu'ils sont arrivés effectivement dans ce qu'on appelait la guerre des tranchées, on a continué à utiliser cette musique comme un outil de motivation pour les faire monter à l'assaut. Et est-ce que vous avez des exemples ? Parce qu'on a du mal à imaginer des orchestres ou des gens jouant au milieu des armes.
Alors tout à fait. Il faut d'abord prendre conscience, et ça j'essaie chaque fois de le rappeler, c'est que le premier choc sonore que les poilus avaient, lorsqu'ils montaient au front en première ligne, c'était le bruit des canons, c'était une grosse machine, c'était d'énormes tambours, et beaucoup, la majorité venait des agriculteurs, et donc ils étaient déjà effrayés et abasourdis par le bruit des canons. Puis après, quand même, quand les tranchées se sont bien établies, il fallait faire sortir les soldats des tranchées, et c'était pas évident. Et donc, les Britanniques, sur certaines parties du front, ont utilisé une technique qu'ils avaient développée à Waterloo et à la guerre de Crimée, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des petits groupes de musiciens avec les cornemuses, des écossais, en kilt, et qui comment dire, ils montaient les premiers des tranchées, ils allaient dans No Man's Land. Alors bien sûr, il y avait du bruit, mais les soldats qui les entouraient étaient poussés par ça quand même, Et petit à petit, toute la tranchée sortait. Et bien sûr, on peut imaginer que, et on n'imagine pas, la réalité était affreuse.
C'est un sacrifice, en fait.
Comment ?
C'est un sacrifice de la part de ces musiciens.
Alors, oui, c'était un sacrifice. C'était avoir l'honneur poussé au maximum. Enfin, ça paraît inimaginable actuellement. Et bien sûr, il y a eu une mortalité effarante. Il faut dire que ces musiciens étaient d'abord aussi des infirmiers, essentiellement. Et là, c'était, comment dire, c'était une activité supplémentaire qui était autorisée par les états-majors. Mais c'était des héros, mais franchement, c'est quand même incompréhensible, sorti du contexte.
Et vous indiquez qu'il y a donc des régiments bretons qui ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur biniou pour faire la même chose du côté français.
Tout à fait, en beaucoup plus petit nombre, mais c'est vrai que... À croire que la cornemuse, le biniou, est un instrument qui, avec un son qui peut porter à ce type de geste. Je ne m'explique que comme ça.
On parle aussi de chants de fraternisation et on pense au film Joyeux Noël qui illustrait la réunion par la musique des soldats des deux côtés. Donc la musique est alors une forme d'outil de rapprochement entre les belligérants. Est-ce que vous pouvez parler de cette d'exemples, est-ce qu'il y en a eu d'autres ?
Alors, il y en a eu en fait très peu, mais comme le film l'a montré, bon, d'une manière très romancée, mais il faut se dire que nous sommes le 24 décembre 1914, et que c'est le premier Noël que passaient les poilus seuls dans ces tranchées. Et donc, il devait y avoir beaucoup, beaucoup de douleurs, de peines, de nostalgie. Et des deux côtés, ce qui fait que pendant une journée, deux journées, sont montés des chants, des tranchées, des chants militaires, des chants de militaires allemands, de soldats français, anglais, qui étaient des chants de Noël, et à un moment donné, ils se sont répondus, et c'était un moment de grâce, qui n'a pas duré longtemps, parce que...
Je suppose que les états-majors ont réagi.
Ah ben oui, vous vous rendez compte, quand on voit des adversaires qui commencent à fraterniser, il n'y a plus de guerre. Et s'il n'y a plus de guerre, ben les généraux n'existent plus. Donc il fallait surtout arrêter ça. Mais je peux même ajouter qu'il n'y a pas eu que le chant, il y a eu quelques matchs de foot organisés entre des Allemands, des Anglais, des Français. Comme quoi, même au fond même d'une guerre terrible, l'espoir... chez l'être humain, peut faire des choses incroyables.
Mais la musique a aussi dénoncé, parce qu'il y a eu des chants de résistance dans cette guerre, notamment quand on approche des années, la fin, enfin 1917, les mutineries, il y a eu des chants qui se révoltaient contre la mort et l'absurdité de ces combats.
Bien sûr. Alors, d'abord, il y a eu au départ, avant ces chants de révolte, des chants même révolutionnaires, il y avait eu beaucoup de chants qui célébraient la mort, l'absurdité de la guerre. Mais comme vous venez de dire, à partir de 1917, qui est une année bascule, il y a eu beaucoup, beaucoup de mutineries. Et là, à ce moment-là, il y a eu des chants de révolte, de révolutionnaires, comme à Craonne, où là, il y a eu tellement de combats sanglants. Qui ont fait quand même près de 130 000 hommes tués en 10 jours, que cette chanson-là, ce qu'on appelle la chanson de Craon, a cristallisé toute la hargne, toute la colère des poilus.
Et on imagine la guerre de tranchées, mais les soldats n'étaient pas tout le temps dans cette zone. Lorsqu'ils étaient en dehors, mais sans rentrer chez eux, est-ce qu'ils ont utilisé la musique ? Est-ce qu'ils ont éprouvé le besoin de jouer ensemble ?
Ah mais bien sûr, parce que il faut, bon ça paraît évident de le dire, mais dans les tranchées, la musique était interdite. Parce que bon, quand on connaît les conditions de vie dans les tranchées, c'était vraiment effroyable. Mais par contre, les poilus, je pense du côté allemand, ça devait être pareil, ils étaient en première ligne pendant une semaine, 10 jours, puis après ils étaient remplacés. Et c'est quand ils arrivaient en deuxième ligne, ils étaient un peu au repos, ils essayaient de manger à nouveau à leur faim, etc. Que là, et bien la musique, parmi d'autres choses, est devenue un moyen de se redonner de l'énergie, de penser à autre chose, de penser à son épouse, à sa fiancée, à ses enfants. Donc là, ils utilisaient des instruments de musique qu'ils commandaient, qu'ils pouvaient commander à l'arrière, mais aussi ils en fabriquaient.
Et là, justement, bon, il y a une anecdote concernant un violoncelle qu'on a appelé le poilu, qui a été monté par les soldats.
Ah oui, donc ça, c'est vraiment le symbole de cette fabrication d'instruments de musique. Très rapidement, c'est donc un violoncelle. Et c'est Maurice Maréchal, qui était musicien de l'Orchestre Lamoureux, qui est sorti du conservatoire de Paris, qui allait faire une grande carrière, et qui avait l'habitude de louer d'un violoncelle quand ils changeaient de ville ou de village. Mais après la bataille de Champagne, il n'a plus pu louer son instrument. Et là, il a eu l'idée assez géniale de demander à un ébéniste, Antoine Neyen, et un artiste peintre en bâtiment, Albert Pic, de lui confectionner un violoncelle. Ça a duré, il n'a pas fallu longtemps, quelques semaines. Dans une grange près d'Arras, ils ont fabriqué à partir de ce qu'ils trouvaient, hein, voire même restant de caisses de munitions allemandes. Et ce violoncelle a été joué par Maréchal, bien sûr. Et il s'en est servi pour divertir le général Mangin. Il a été invité par différents états-majors. On les appelait d'ailleurs les musiciens du général. Et d'ailleurs, ce violoncelle, qui on peut trouver et voir au musée de la musique à Paris, et ben, sur sa table, il y a les signatures des généraux Foch, Joffre, Mangin, Gouraud, Pétain. Et donc, c'est comme si ce violoncelle, cet instrument de musique, avait été aussi médaillé comme les poilus.
C'est un beau symbole. La musique a aussi servi de rapprochement des cultures, puisqu'à partir de 1917, les États-Unis entrent en guerre. Et quelle est la contribution de ces États à la musique qui va être écoutée sur le vieux continent après la guerre ?
Oh ben, l'exemple type, c'est que lorsque les troupes américaines arrivent en 1917 en Europe, ben, ils amènent aussi une de leurs musiques préférées, et surtout pour les Noirs américains, le jazz. Et donc c'est là, ça a été la grande découverte des Européens, cette musique qu'ils ne connaissaient pas du tout, et qui a très vite fait son chemin. Ça a été un succès dès le début. Et donc, on peut citer quand même comme musicien James Reese Europe, qui a été une vedette à l'époque, et qui est rentré aux États-Unis d'une manière triomphale. Et surtout, juste entre parenthèses, les Noirs, les militaires noirs américains, ont vécu cette guerre 14 comme une sorte d'éloignement de la discrimination, parce que dans l'armée américaine, ils étaient discriminés avant, et quand ils sont arrivés aux États-Unis, à nouveau, ils ont été ségrégés. Il n'y a que cette parenthèse dans cette guerre où les Noirs américains se sont sentis beaucoup plus accueillis par les poilus français, par exemple.
Oui, parce qu'ils étaient soldats avant d'être musiciens à ce moment-là, et malheureusement dans les mêmes conditions terribles. Justement, dans ces périodes terribles, on a parlé de la musique, on a parlé des chants. Quand on est artiste, comment peut-on créer, avoir une envie de création dans ce chaos?
Alors bien sûr, il y a des compositeurs qui ont de musique, qui ont composé sur la guerre. Mais moi, j'ai envie vraiment de retenir un seul nom, celui de Maurice Ravel. D'abord parce que j'adore ce compositeur, mais ça c'est un peu égoïste, mais surtout parce que c'est un des rares musiciens qui a fait la guerre, qui a été engagé volontaire en 1916. Il conduisait des camions, il a été envoyé à Verdun d'ailleurs. Bon, il a été malade, il a été opéré, donc il a après été démobilisé, mais pendant cette période au front, il a composé il a intitulé ce morceau Tombeau de Couperin, tombeau au sens dommage, et dans les six parties qui composent ce tombeau de Couperin, chacune est une dédicace à un camarade mort au front. Et c'est très très émouvant quand on l'écoute.
Merci beaucoup de cet exemple qui nous prouve effectivement que les artistes continuent quel que soit le contexte. Donc nous allons conclure cette partie en écoutant un chant que vous avez évoqué tout à l'heure, la chanson de Craon, qui est vraiment un chant de colère et qui est devenu un chant antimilitariste, avant de nous retrouver pour la conclusion.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre l'étranger. Notre place est si utile que sans nous on prend la pluie. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, on doit laisser son peuple. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons entre elles. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur retour. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, c'est mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufillons vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Et si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Eh bien, nous terminons notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au rapport entre la musique et les droits de l'homme, avec notre invité Bernard Forlot, auteur de l'essai « Musique et droits humains au XVIIIe et jusqu'au XXe siècle ». Donc, en conclusion, Bernard Forlot, je dirais que plus largement sur le rôle de la musique dans le monde actuel, comme à la fois ou alternativement moyen d'asservissement et de coercition ou d'espoir et de résistance. Comment vous voyez l'avenir de la musique aujourd'hui ?
Vaste question.
Par rapport aux droits de l'homme, bien entendu.
Bien sûr. Alors tout d'abord, c'est vrai que la situation actuelle est, me paraît, et je pense ne pas être seul, très, très difficile. Les guerres éclatent dans tous les coins du monde. Il y a des massacres, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés sans discontinuer. C'est vraiment une période, connaissant la période des années 80-90, vraiment là, lorsqu'on est militant des droits humains et que l'on aime passionnément la musique, c'est très difficile de vivre cette période-là. Mais la musique a pour vocation et véritablement pour objet aussi d'être une source d'espoir, d'espérance, de source d'énergie. Et là, elle est toujours là, quoi. Si on jette un coup d'œil, on observe ce qui se passe en Ukraine, la musique est toujours là.
On n'en a pas parlé, mais le conflit ukrainien est un conflit actuel. Est-ce que, juste en quelques secondes, à quelques mots, est-ce que la musique joue un rôle actuellement en Ukraine ?
Ah, elle joue un rôle, et surtout d'espoir et de réconfort. Il y a bien sûr y a des musiciens qui sont morts au combat, mais comme un très, très grand nombre d'Ukrainiens et Ukrainiennes. Mais elle est un réconfort parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont pu s'exiler en Europe, qui ont retrouvé une place dans les orchestres. Il y a aussi beaucoup de musiciens qui ont joué dans les caves, dans les stations de métro, et qui ont beaucoup réconforté leurs parents, leurs proches, leurs amis. Et véritablement, la musique en Ukraine, c'est l'exemple type d'une musique de l'espoir et du réconfort.
D'accord. On retrouve un peu ce que vous avez développé autour de la guerre de 14-18, lorsqu'effectivement la musique en deuxième ligne servait à rebooster, réconforter les soldats. C'est le cas aujourd'hui. Eh bien, Bernard Forlot, merci beaucoup pour votre témoignage. Nous espérons vous retrouver bientôt et pouvoir lire votre essai. Donc merci et très bonne soirée.
Merci à vous.
À nos auditeurs, eh bien, vous pouvez réécouter cette émission que vous pouvez télécharger sur le site d'Agora Côte d'Azur. Sachez également qu'elle sera rediffusée le lundi 6 avril à 21h sur Agora. Et puis nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains le lundi 20 avril 2026 autour du thème de l'invention de l'agriculture et de ses conséquences sur les sociétés humaines. Merci. À bientôt et très bonne soirée.